gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Bonsoir, et oui, c'est dimanche 22-23h, et c'est donc la causerie. Alors, avant de présenter qu'il y a autour de la table, tout ça, oui, auditrice et auditeur, je sais que tu es très, 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 très triste, car tu as entendu le générique de la causerie, ce qui veut dire que, eh ben, il n'y a pas astronomie ce soir, parce que d'habitude, c'est pas notre générique quand il y a astronomie. Et oui, parce que notre ami astronome Georges est malade et ne peut pas être là ce soir, donc il sera là la semaine prochaine. Voilà qui est dit, et remets-toi bien, Georges, d'ici là. Voilà. Et autour de la table, et même à la technique ce soir, on a Clara.
Bonsoir.
Et on a aussi Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab.
Salut, salut. Alors, si t'as envie de nous joindre, toi qui es de l'autre côté du poste, eh ben, ça se passe à lacauseriecanu@gmail.com, tout attaché en minuscules. Si tu veux laisser des commentaires pour dire que c'était vachement pas bien ou que c'était vachement bien, ça se passe sur les blogs de Radio Canu à La Causerie, ou alors l'adresse c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et sinon, tu peux retrouver plein de liens très très pratiques sur une page qui est sur un réseau social qui s'appelle Facebook. Voilà. Donc, mais d'habitude, on ne dit pas le nom. Mais bon.
C'est vrai, là, ici, on garde un mystère.
Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Là,
tu parles d'un mystère.
Ça m'a échappé. Voilà. Juste quand même pour dire que du coup, c'est une causerie un peu de remplacement ce soir, qui n'était pas trop prévue comme ça. Mais on va essayer de vous faire quelque chose qui vous intéressera, on espère.
Ben oui, on va faire de notre mieux, et pour faire culpabiliser Georges. Oui, Georges, tu vois. Non, des bisous à lui. Et
démarrons.
Ce soir, on va vous causer film et BD.
Culture, quoi.
Ouais, culture. Et pas que, parce que c'est toujours un peu mélangé, tout et tout et tout, et avec un petit peu de politique tout le temps. On va vous causer du film Les Figures de l'Ombre. Alors, on n'est pas les seuls à vous en causer, évidemment, mais nous aussi. Parce qu'on avait envie, et puis je pense que c'est déjà une bonne raison, non ?
Oui.
Ce soir, ça va être dynamique. On sent que c'est parti.
Alors,
juste rappeler que donc en américain, c'est Hidden Figures. Voilà. Non, mais je voulais pas le caser comme ça, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont pu le voir en VO. Ça permet de revoir quel film on parle, c'est mieux. Voilà.
C'est ça. Et alors, c'est un drame biographique de Théodore Melfi, et qui est issu, on va dire, enfin qui est inspiré du livre, en fait, justement, Hidden Figures,
oui, qui est sorti sous le titre Les Figures de l'Ombre en français.
Ah ouais, voilà. C'est donc ça se tient. Hein.
C'est magique.
Ils sont forts à la trad, hein.
Ouais.
La traduction, tout ça. Waouh. Pardon. Et le livre, on peut peut-être quand même le dire, hein, il est de Margot Lee Shetterly. Alors, est-ce qu'on... Ouais, on place le
pitch, comme on dit.
Vas-y, je te laisse faire le pitch, t'es meilleur que moi.
Eh bien, en fait, le film va vous relater la vie de trois grandes dames du programme spatial américain, mais qu'on avait un petit peu oublié pendant 50 ans, hein, pour faire simple. Donc, on va vous rappeler un petit peu que ces femmes existaient, et surtout quels ont été leur rôle prépondérant dans la conquête spatiale aux États-Unis. Le tout saupoudré du fait que, comme ces trois personnes sont noires dans le sud des États-Unis, dans une période ségrégationniste, c'est pas facile, et c'est d'autant moins facile qu'on est en plein milieu des combats pour l'abolition l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. Le tout, quand même, malgré tout, avec un côté, entre guillemets, feel good movie, comme on dit, un film pour se sentir bien. C'est-à-dire que c'est quand même fait pour être un film positif. Voilà, on va le dire quand même tout de suite. C'est pas un film dramatique au sens premier terme, même s'il y a des choses qui sont pas du tout drôles dans le film et qui sont même très dramatiques. Mais voilà. Donc, ce serait donc la vie de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, que vous allez suivre et qui sont incarnées respectivement par Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe. Voilà.
C'est ça. Et on peut rajouter quand même des personnages qui vont intervenir, dont deux, trois qui sont un peu connus quand même aussi. je citerai Kevin Costner, qui joue le rôle de Al Harrison.
Ouais. Qui est le directeur en fait du programme spatial en 1960, de 1960 à 80 et des brouettes, je crois, si ma mémoire est bonne. Voilà.
et ben on fait confiance à ta mémoire.
Voilà.
Et il y a aussi une autre tête un peu connue, c'est Jim Parsons. Parsons. Et qui lui joue le rôle, oui, on va dire, de Paul Stafford.
Ouais.
Et on l'a vu dans...
Ah, c'est le héros de Big Bang Theory, pour ceux qui suivent la série.
Wow.
Voilà. Et donc, tout ça pour dire que le film... Alors, je vais commencer par ses défauts, moi, parce que j'aime bien commencer par le côté un peu négatif du film. Alors, comme je l'ai dit, c'est un petit peu tourné façon film pour bien se sentir bien. Pour moi, il manque deux, trois trucs dans le film, clairement. Le premier d'abord, c'est qu'on nous donne assez peu de visibilité sur la vie privée de ces femmes, et pourtant elles ont toutes des enfants, et pour certaines beaucoup. On a un peu du mal à comprendre comment elles ont pu gérer tout ça aussi simplement que ce qu'on nous montre dans le film, parce que je pense que c'était pas aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est sur l'aspect pour moi ségrégation, qui est pas suffisamment souligné dans le film, même s'il est démontré par deux trois scènes et deux trois choses qui sont mises dans le film. Mais du coup, moi je trouve qu'il manque des scènes avec justement leur famille pour qu'on comprenne notamment les enfants, ce qu'ils vivaient à l'époque, dans quel climat ils étaient. Voilà. Et puis, on parlait d'une altercation qui est au début du film.
On dévoile rien d'extraordinaire. Enfin, en même temps, c'est une biographie. Donc,
si vous l'avez lu, vous,
c'est-à-dire que vous connaissez l'histoire. Mais effectivement, elles sont en panne et il y a un flic qui arrive et. Effectivement, on sent bien que ça risque d'être un moment de tension parce que vraiment, elles s'affairent. Enfin, elles sont là à se dire bon, on essaie de rester cool, etc. Et le flic arrive. Alors,
au départ, il est un peu.
Il est un
virulent.
Petit peu virulent, mais justement, je pense que c'est là où le réalisateur aurait pu peut-être appuyer certaines choses. C'est que je ne suis pas persuadé que dans un état ségrégationniste, un gentil petit flic blanc voit trois femmes arrêtées au bord d'une route. Je suis pas sûr quand même.
Trois femmes noires de surcroît.
Trois femmes noires qui sont arrêtées en bord de route. Je suis pas certain que ça se passait de manière aussi
paisible.
Ouais, aussi paisible parce que quand même c'est vraiment assez paisible. Et d'un coup, il va voir qu'elles sont de la NASA. Et là, bam.
Alors ça, je veux bien y croire parce que c'est le côté un peu à l'époque, les gens qui travaillaient à la NASA, c'est quand même le top du top.
Bah, ils servent quand même la nation. Donc
il faut battre les Russes. Hein. Je vous rappelle que c'est la course entre. D'ailleurs, ça c'est assez bien montré dans le film, entre le programme américain qui pour envoyer des gens dans l'espace et le programme russe. Et je vous rappelle qu'historiquement, c'est l'URSS qui a envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le film que les Américains se demandent vraiment comment eux ils sont pas arrivés. Donc c'est assez étonnant. Mais c'est plutôt intéressant, mais c'est bien parce que ça souligne d'ailleurs dans le film que c'est juste parce qu'ils n'utilisent pas tous les cerveaux qu'ils ont de disponibles par un côté raciste et sexiste qui est du fait d'avoir des femmes. Parce qu'on va rappeler que ces trois femmes sont au départ embauchées comme calculatrices humaines. Et une petite musique, je sais pas ce qu'il y a au fond. Elles sont embauchées comme calculatrices humaines, donc en fait il y avait pas les ordinateurs, hein, on voit la naissance de l'IBM.
Oui.
Hein, qui était de cette époque-là. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle faisait des tonnes de calculs pour vérifier les trajectoires, tout ce qu'il y avait fait. Et ça, c'est très très bien montré dans le film. C'est un des aspects que je trouve excellent. C'est que c'est un film profondément scientifique au sens premier du terme. C'est-à-dire que vous faites pas chier parce qu'on va pas vous noyer d'équations, mais vous vous rendez bien compte de la complexité du truc,
oui,
quoi.
C'est-à-dire. Vas-y.
Et que donc, du coup, ça, moi, j'ai trouvé ça bien rendu. Et du coup, leur rôle est quand même vachement important parce qu'elles font partie d'une unité composée exclusivement de femmes noirs et qui sont mis de côté ou poussés sur le côté par la NASA en fait et par certains chefs de la NASA, pas tous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même ces femmes-là qui vont faire les plus grosses masses de calculs qui permettent en fait de concevoir une fusée, de l'envoyer dans l'espace, de faire redescendre le gars qui a envoyé aussi.
Mais justement, et c'est là où on voit bien quand arrive l'IBM, ce super ordinateur. En fait, oui, en fait, il vient prendre le boulot de ces femmes-là, en fait.
Oui, tout à fait.
Mais ce qui représente aussi, je trouve, à notre échelle aujourd'hui, qui n'est plus que quasi informatique, etc., la force, en fait, du taf qu'elles abattaient, bien en sûr. Fait, que vraiment, enfin, c'est... Ouais, c'est énorme, quoi.
D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le film, on suit donc ces trois destins. Donc, alors, on va juste quand même, tant pis si vous vouliez pas être spoilé pour le film, vous n'écoutez plus maintenant. Voilà. Alors, Katherine Johnson, on va juste rappeler que, elle sera l'une des calculatrices humaines, comme on disait au départ. Puis finalement, elle va devenir un des piliers du programme spatial américain, vu qu'elle va même travailler à envoyer des hommes sur la Lune. Voilà. Donc, ça, c'est, vous verrez sa trajectoire de calculatrice humaine un peu méprisée à personnage central du programme spatial, en fait.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit toute petite.
Oui, tout à fait.
Et justement, là aussi, ça recontextualise quand même, mais avec, je pense, effectivement, il manque toujours un petit peu quand même de la réalité un peu plus violente du climat ségrégationniste. Mais on la voit effectivement toute petite, avec ses parents
qui font un sacrifice pour lui permettre d'aller à l'école.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait...
En 1926.
Parce qu'elle est vraiment... Elle est hyper balèze. Enfin,
elle a trois ans d'avance.
Ouais, c'est ça. Elle va avoir son bac à 14 ans plus tard. Enfin, c'est une grosse tête. Et effectivement, c'est intéressant quand même aussi de se dire, tiens, en fait, c'est... Oui, les parents ont aussi soutenu, ont apporté leur soutien pour que leur gamine puisse... puisse s'épanouir, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout un génie. C'est au sens premier du terme, c'est quelqu'un qui a une capacité à dépasser la matière dans laquelle elle se trouve. Or là, c'est les mathématiques. Et on se rend compte dans le film qu'effectivement, elle va les dépasser grandement parce qu'elle va réussir à résoudre des équations et à trouver des solutions là où, en fait, un tas d'ingénieurs blancs, bedonnants et vieux sont dessus depuis des mois et des mois. Et c'est très intéressant parce qu'on voit aussi le rôle qu'avait Al Harrison, donc le directeur
du centre
spatial de la NASA, qui lui est vraiment dans son monde. Et on s'en rend compte, en fait, quand on voit le film, c'est que lui, il ne se rend pas vraiment compte qu'il est dans un état ségrégationniste. On le comprend un peu, qu'il est un peu à côté de la plaque là-dessus. Mais il va du coup confronter à cette personne-là, devoir se réveiller. Et c'est intéressant aussi de voir son parcours à lui, de voir comment, d'un seul coup, il se dit, mais en fait, on a besoin de tous les génies, quoi. On s'en fout que ce soit un homme, une femme, qu'elle soit blanche, noire ou autre. On s'en tape. L'essentiel, c'est que la personne, c'est ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle peut fournir.
Ouais, et puis il se rend surtout pas compte de la vie que c'est, en fait. Parce que lui,
non,
vraiment,
je pense
que
il est à côté de la plaque.
Lui,
hein,
il cherche vraiment effectivement des cerveaux, des génies. Et tu comprends quand il le présente que, en fait, il s'en fout, en fait, que ce soit une femme, un homme, noir, blanc. Je crois que vraiment, c'est pas ça qu'il cherche. Par contre, effectivement, ce qui fait aussi qu'il voit pas. Ce qui se passe en fait.
Oui, tout à fait.
Cette personne, etc. Enfin, quand elle doit traverser
la moitié du site.
La moitié du site pour
aller
pouvoir accéder aux toilettes, etc. Enfin, et que là aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe par des confrontations, quoi.
Oui.
Et qui sont pas toujours gentils, mais
non.
À un moment donné, la confrontation, elle fait avancer forcément, quoi. Enfin, forcément non, mais il la faut.
Et vous suivrez donc aussi Dorothy Voigt, qui, pour ceux qui font de l'informatique, a inventé le fameux saloperie de facteur humain dans l'informatique. C'est une des créatrices de cette notion-là, qui dit que comme un ordinateur c'est fait par un être humain, forcément ça se plante vu qu'un être humain se plante. C'est l'idée qu'il faut jamais faire totalement confiance à l'informatique. Mais c'est quand même une des premières et des pionnières du système IBM de l'époque. Et elle va justement, on le suit dans le film, et c'est vérifié parce que on a fait quelques recherches après sur ces personnes. Parce que quand même c'est intéressant de voir ce qui colle par rapport à la réalité. En fait, le film est assez réaliste et suit vraiment leur vie. En fait, c'est une des premières qui va comprendre qu'il faut qu'elle forme les calculatrices noires et femmes au langage informatique, parce que sinon elles vont plus avoir de boulot 2-3 semaines après, 2-3 mois après. Et donc elle va avoir ce réflexe de dire, plus on a de connaissances, plus on est aguerri dans son métier, plus voilà. Et elle comprend, en fait, c'est elle qui va inventer une notion qu'on connaît très bien aujourd'hui, c'est elle qui va inventer la notion de programmeur. c'est-à-dire la personne qui vient programmer l'IBM, et c'est elle qui va avoir cette idée d'avoir une équipe de programmeurs, à l'occurrence de programmeuses. Et donc c'est intéressant de voir que voilà, c'était un vrai très bon réflexe qu'elle a eu, parce qu'on voit dans le film, sans tout vous dévoiler, il y a des choses intéressantes à voir là-dessus. Et puis vous suivrez aussi Mary Jackson, qui non seulement va devenir la première femme noire des États-Unis à être ingénieure, mais surtout va devenir la première femme américaine à être ingénieure tout court. Et donc c'est intéressant aussi de voir son parcours et de voir le caractère qu'avait cette femme, parce qu'a priori, même dans les articles de journaux que j'ai trouvés, il disait l'actrice est en deçà de ce qu'était Mary Jackson dans la vie. Donc quand on la voit dans le film, on se dit ah, ça devait être un sacré personnage quand même. Voilà, donc c'est intéressant. Donc voilà, vraiment un film à voir et pour avoir un pan d'histoire en fait, parce que c'est aussi ça qui est bien. Et ça fait partie de ces films qui aujourd'hui aux États-Unis réhabilitent une part de l'histoire américaine au travers du cinéma, pour remettre un petit peu en face des yeux des Américains d'aujourd'hui, ben que il y a tout un pan de leur histoire qu'ils ont oublié ou qu'on a effacé, parce que ces femmes, on les a pas mis en avant. On en parlait, c'est très politique comme tu disais.
Ben, je pense que c'est très politique, parce que je pense que, alors effectivement, elles sont pas comment on peut dire, je sais pas comment dire au féminin, mais tribuns, tu vois, c'est pas des grands personnages politiques. Mais à leur échelle, enfin, je pense qu'elles ont, elles ont vraiment participé à cette révolution, on va dire, enfin, ou en tout cas cette égalité des droits, etc. Et que c'est, enfin, moi, je trouve que c'est juste énorme. Et effectivement, je pense que on peut aussi y voir une forme de sexisme à ne pas justement
sous-estimer dans les luttes, tu veux dire.
Ah bah oui, ouais. Bah on sous-estime les femmes et qu'on les met pas au même pied d'égalité en fait que d'autres. Jusqu'à lever la tête dans le studio de Radio Canu, on a un poster de Martin Luther King et on n'a pas une fresque de milliers de femmes qui ont pu faire avancer plein de causes, quoi. Donc là aussi, je trouve que c'est et que là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant dans le film, c'est le sexisme en fait.
Ambiant en fait.
Mais oui, ouais. Sexisme ambiant en fait, et qui n'est pas que réservé aux blancs, etc. Et que c'est, bah non en fait, elle était noire. Et femme, en fait.
Oui, ça.
C'est vraiment, vraiment super bien démontré, parce que, justement, il y a une des héroïnes qui a un amoureux et qui, finalement, la méprise, quoi.
Au départ, ouais.
Au départ.
Enfin, c'est pas qu'il la méprise. Il est très maladroit. Non, mais c'est pas du mépris. C'est qu'il est dans l'air du temps. C'est horrible, parce que ce serait du mépris si c'était exceptionnel. Sauf que, en fait, il est dans l'air du temps. Il dit, mais comment ça, à la NASA, il y a des nanas, mais franchement, et on vous confie des calculs, non, mais. Et voilà. Et en fait, il est vraiment dans le même moule que tous les autres, en fait.
Et ce qui lui fait à elle un nouveau front de lutte, en
oui,
fait.
Tout à fait, ouais.
C'est vraiment ça, quoi. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est, enfin, alors oui, elles sont à la NASA, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est des petits personnages parce qu'elles n'ont pas leurs affiches, elles n'ont pas leur truc à elles aujourd'hui, mais. Et vraiment, c'est hyper important parce qu'elle menait mais des luttes. Enfin, c'était pas la intersectionnalité ou je ne sais plus comment ils appellent tout ça, la convergence des luttes. C'était leur vie en fait, quoi. C'était le patriarcat, c'était le racisme. Mais non, enfin c'est tout ça, quoi. Donc j'ai vraiment adoré. Je trouve que ça pousse derrière à vouloir se renseigner justement sur toutes ces personnes qu'on efface un petit peu.
Et juste quand même pour le dire, parce que c'est intéressant, c'est que Katherine Johnson, elle a travaillé à la NASA jusqu'à l'âge de 90 ans. Elle a été dans les programmes spatiaux jusqu'à l'âge de 90 ans. Alors elle a été consultante sur la fin vers la fin, quand même. Mais et c'est intéressant de voir surtout que la NASA lui rend hommage, vu qu'ils viennent de donner son nom à un des plus grands centres spatiaux. Justement pour que les gens arrêtent d'oublier ces personnes-là, parce que voilà. Et on voit d'ailleurs le rapport qu'elle a, malgré elle, un petit peu, avec le premier homme qui est parti dans l'espace, qui finalement se rend compte qu'il vaut mieux faire confiance souvent à un être humain qu'à une machine quand on est en train de faire le tour comme ça, et que le facteur humain est important dans tout ça. Et voilà, rien que pour cette relation-là et cette vision-là, et surtout que là, tout est vrai, et tout s'est passé effectivement comme ça, et là on se dit effectivement, il y a vraiment eu une histoire à ne pas rater, quoi. Voilà.
D'autres choses à ajouter.
Bon, Clara, t'as plu le film ou pas, toi? Parce que je sais que tu l'as vu, on était ensemble.
Non,
on n'était même pas ensemble pour celui-là. Mais je sais que tu l'as vu.
Oui, il m'a plu.
Bon, bah ok, on n'en aura pas plus.
On aura pas plus.
On aura tenté. Bon, bah on allez, on met de la musique. Ouais. We'll be right back.
Echo Alpha.
Et c'était pour vous dans la causerie Innocent du groupe Hundred Waters.
Et ben, c'était très bien.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé.
Et c'est toujours à toi, Jean-Yves, maintenant,
oui,
de nous parler.
Mais oui, c'est toujours la causerie, tout ça, on l'a
je dit.
Mais
là, ouais.
Pardon.
Tu suis pas. Non, c'était pour vous, voilà.
Je suis un petit peu chamboulé ce soir.
Ben, c'est, oui, c'est parce que, oui, il n'y a pas astronomie ce
ben
soir.
Oui, parce que on ce soir, il n'y a pas astronomie, alors Georges, il me manque et tout ça.
Mais
et...
la semaine prochaine, il sera là.
Oui, youpi, ça va j'ai hâte. Bien. Donc, eh ben moi je vais vous causer, ouais, je vais vous causer d'une BD, l'Arabe du futur, l'Arabe du futur tome 3, parce que je vous avais déjà parlé du tome 2 dans la causerie 108, du tome 1 dans la causerie 75, vous voyez, pff, ça remonte. Enfin, et donc là c'est le tome 3, c'est une jeunesse au Moyen-Orient et la période qui le couvre, c'est 1985 à 1987, et donc... Il, c'est Riyad Satouf qui nous raconte sa vie en fait. Hein, je l'avais déjà expliqué, mais là je vais un peu le redire pour les gens qui n'ont pas forcément entendu parler de cette BD. C'est que en fait, c'est Riyad Satouf qui nous conte sa vie, qui nous croque sa vie en fait. Et tout ça, alors je vais quand même le dire tout de suite, c'est que ça se passe aux éditions Alary, pour que tout le monde ait les infos.
Et rappelez que l'expression l'arabe du futur, c'est une expression de son père.
Oui, ça vient de son père, parce que pour lui.
Il dit tu seras l'arabe du futur.
Voilà, c'est ça, l'arabe du futur. Futur, c'est celui qui sera ingénieur, c'est celui qui fera des études, etc., etc. Donc c'est effectivement ce titre qui nous suit à longueur d'album. Donc là, on se retrouve donc en 1985. Riyad, il a 7 ans, il habite Texmalet en Syrie avec son père, sa mère et son petit frère Yahya. Son père est toujours prof à Damas, sa mère, elle est toujours sans travail à la maison et ça l'ennuie pas mal quand même. On sent qu'il y a régulièrement des tensions entre les deux. Il y a la mère qui a envie de se barrer, d'avoir une bagnole, de plus avoir de l'eau dégueulasse au robinet, de plus avoir de coupure de courant.
Parce qu'on se rappelle, faut rappeler que sa mère, c'est elle qui est bretonne. C'est
ouais,
ça,
elle est bretonne, voilà. Lui il est syrien. Il avait fait des études en France, ils se sont rencontrés en France.
Je choque du changement de lieu, quoi.
C'est bah oui, c'est
de
ça.
De la Bretagne à la Syrie,
oui,
ça fait pas pareil.
Et puis on comprendra au fur et à mesure dans les albums, mais qu'il y a même des gens en Syrie qui se disent, mais qu'est-ce que tu es venu foutre là? Ils lui disent à son père, qu'est-ce que tu es venu foutre là, quoi? Parce qu'il est perdu en Syrie, quoi. Enfin, pas perdu, mais il est dans un petit bled, quoi. Donc voilà. Donc on continue, hein. Donc là, on voit Riyad qui est à l'école. L'école, enfin voilà, hein, où il n'y a pas de toilette, tout ça, c'est un petit peu... Et comme son père le souhaite, il arrive à être le premier de la classe. Alors lui et un copain, je crois que c'est Salé, ils sont un peu les deux premiers de la classe. Alors forcément, ça crée des tensions là aussi. Donc c'est toujours intéressant, à vue d'enfant, toutes ces embrouilles en fait le ressenti que ça a, parce que quand t'es le premier concerné on retrouve aussi cette violence en fait qu'il y a des instits. On a un prof qui a un instit qui éclate un bâton sur la tronche d'un gosse, quoi. Enfin c'est, il y a vraiment une violence mais là aussi c'est toujours avec son regard de gamin de 7 ans, donc je trouve que dans son dessin on trouve ce regard un peu pas naïf mais au premier regard, quoi, enfin au premier degré, quoi. Dire que la violence c'est de la violence en fait, il y a rien qui va l'expliquer, quoi. On retrouve aussi la famille du père de Riyad, hein, sa mère, enfin donc la grand-mère de Riyad, elle est un petit peu faire un petit peu des reproches à son fils en disant t'es pas vraiment sur la religion, enfin tu vois, tu manques un petit peu à certains préceptes, dirons-nous. Et alors on a Riyad qui lui il le dit, il fait semblant d'y croire. Parce que, et il observe en fait les oppositions qu'il y a entre les louanges de la pureté, de la morale, de l'honnêteté, de la gentillesse, de la sincérité, et un petit peu les actes qui sont quand même souvent un peu en opposition avec ces belles paroles bien, bien saintes. Donc c'est là aussi, c'est très, moi j'aime beaucoup parce que justement, c'est, je crois que si des fois on écoute un peu plus les infos autour des religions, il dirait, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? Vous êtes pas cohérent. Donc voilà, et justement, Riyad, c'est ce qu'il se dit aussi, c'est que si Dieu existait, il supporterait pas autant d'hypocrisie, quoi.
Oui, ce qui est très vrai.
Mais oui, c'est très, très élémentaire, et je trouve que c'est très bien, c'est très terre à terre. Donc voilà, donc après, alors il nous parle aussi de ces fêtes que pour lui, alors il n'y a pas Dieu, mais par contre il y a deux phénomènes qui qualifient de surnaturel, c'est la petite souris. Donc on a le droit à la petite souris expliquée par son père. Enfin c'est vraiment génial. Enfin moi j'adore. On a et aussi Noël, parce que Noël t'écris un truc, les parents ils l'envoient et d'un coup t'as plein de cadeaux. Donc c'est quand même waouh quoi.
C'est surréaliste.
Bah oui c'est surnaturel je veux dire. Donc voilà et que là aussi c'est le moment où bah lui il a sa double culture qu'il articule facilement en fait et bah ses copains qui eux bah on va dire que la culture syrienne et va leur faire participer à Noël et ils seront un petit peu déçus eux, parce que ça marche pas en fait. Bah oui parce que derrière il y a les parents tout ça hein. J'espère qu'on tue rien pour les auditeurs et auditrices. Le papa à Noël tout ça c'est des bêtises hein, c'est, ça n'existe pas.
Ah bah merde.
Encore des déçus. Donc c'est à l'occasion bah, de cette fête de Noël en fait qui fait que et de leur rang social va leur permettre en fait d'aller dans un magasin qui vend de l'alcool, du champagne, du Côte du Rhône. On est en Syrie dans un petit village hein. Et ainsi que des jouets dont un Goldorak géant.
Waouh.
Ouais bah ouais lui il est fan. Enfin bon et...
moi je kiffe parce que Riyad Satouf il a eu le Goldorak comme moi.
Ah, il l'a pas reçu, t'inquiète, ah, je vais pas tout dévoiler, mais ça reste en tout cas un personnage qui va le suivre un peu comme ça de temps en temps, on va le retrouver.
Ah, je le comprends.
Des fois dans des situations un peu bizarres, enfin pas bizarres, mais voilà, qui vont être le reflet de ses peurs, de ses pensées, de ses rêves, de ses cauchemars. Et là aussi, c'est toujours intéressant parce que, et je l'avais déjà dit dans les autres fois où je vous en avais parlé, c'est que le politique, il est distillé en fait. C'est pas une tribune politique, c'est que de la société qui va nous décrire, des dessins qui va nous faire, etc., et des expériences qui vont avoir. Et ben, on va rencontrer des gens, il va avoir des situations. Et justement, c'est dans ce magasin-là qu'il va rencontrer. C'est ce que son père lui expliquera plus tard, bah que c'était un mec qui est venu chercher de l'alcool, la bouteille la plus chère qu'il avait, et il est reparti. Et son père bah, lui a expliqué, bah, en fait, bah, ça c'était un mec qui est philippin et qui bosse pour, entre guillemets, son maître, qui est d'Arabie Saoudite. Et c'est aussi l'occasion de revenir sur l'Arabie Saoudite. Son père va, avec son regard à lui, hein, qui n'est jamais neutre, aucun regard n'est jamais neutre. Donc, il va nous expliquer bah, la monarchie, les pétrodollars,
les Saouds, tout ça.
Il va aussi parler bah, du pèlerinage, parce que là-bas, il y a la Mecque, et que le père de Riyad a fait le pèlerinage. Et là aussi, c'est hyper parlant. C'est pas très long, hein, ça va être quelques cases sur ce pèlerinage, mais c'est hyper parlant. Donc, je trouve que c'est vraiment. C'est toujours avec subtilité qu'il fait Riyad Satouf. Et moi, j'aime beaucoup ça, justement. Donc, voilà, et, je vous parlais avant de tensions. On retrouve effectivement les tensions entre sa mère et son père vraiment tout au long. Enfin, c'est de plus en plus palpable. Il y a vraiment des tensions parce que, bah, comme je vous l'ai dit, la mère, elle en peut plus parce que le père, lui, en fait, il est prof. Donc, il bouge, il voit du monde, etc. Et, bah, elle non, hein. Donc voilà, elle veut retourner en France, elle veut bosser, enfin, elle veut être un peu autonome, dirons-nous. Et
en fait, elle veut être indépendante
en fait, c'est ça le truc.
Ce qui est une aspiration profondément légitime.
Ah, bah oui,
quand
oui.
On y réfléchit. Ah, et bah, en fait, souvent, il y a dans les gens qui repartent, qui partent comme ça parce qu'ils ont des métiers qui leur permettent, ils oublient une part de la famille qui, elle, est obligée de suivre et qui n'est pas toujours au top. Mais,
c'est ça.
Voilà. Et c'est vrai que dans les gens qui bougent comme ça un peu à droite à gauche, c'est le cas du père de Riyad Satouf, en fait, on se rend. Oui, c'est un peu une constante qu'on oublie le reste des gens qui nous entourent.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est tout pour la carrière de monsieur et le reste.
Même si c'est pas volontaire en plus.
Non, mais. c'est presque des fois t'as l'impression que c'est même pas pris en compte en fait.
Oui, c'est enfin, ça.
Ça dépasse le truc quoi.
Un petit oubli.
Donc voilà. Donc alors on continue. C'est on est toujours à la hauteur de Riyad Satouf de ses 7 ans. Et ben à un moment donné il joue avec ses potes et il doit pisser quoi. Donc ils vont pisser et puis bah là ils disent oh, bah attends. On n'a pas le même zizi en fait.
T'es pas circoncis.
Ben ouais, t'es pas circoncis, toi, il y a un truc. Donc forcément, comme je vous l'avais déjà dit, hein, le premier mot qu'il avait appris, Riyad Satouf, c'était juif. Donc là, forcément, il avait un zizi qui était différent. Donc ses potes lui disent, t'as un zizi de juif. Donc là aussi, c'est parlant de
ce que les parents transmettent
mais
aux enfants.
Évidemment,
en fait.
Évidemment, c'est ça le truc, quoi. Donc là aussi, Riyad, il est un peu fait merde. C'est quoi le bordel, quoi, tu vois? Comment ça se fait que le mien n'est pas coupé, etc. Donc là aussi, son père va lui apporter des explications. Enfin, c'est ça, le père, il a vraiment un rôle de transmission, d'explication, etc. C'est intéressant, vraiment. Tout en étant pas souvent là, et c'est assez intéressant. Et alors aussi, autour de la religion, vraiment, c'est plus prégnant dans ce tome-là. Bah, il y a le ramadan. Et ses potes, ils le font à l'école, et lui, en fait, il le fait pas, en fait. Mais il veut faire croire qu'il le fait. Donc, c'est vraiment rigolo. Enfin, il fait la course entre l'école et la maison pour bouffer. Enfin, il croit que tout le monde croit qu'il fait le ramadan, mais en fait, je crois qu'il faut être vraiment naïf. Et les enfants sont pas forcément très naïfs. Donc c'est assez rigolo. Et alors, son père, qui lui, pareil, est pas du tout religieux, et ben là, il va faire le ramadan. Pourquoi? Bah parce qu'il veut pas décevoir sa maman. Donc là aussi je trouve que c'est très intéressant.
Les rapports familiaux,
ouais. Et oui, et sur le poids des familles en fait dans le religieux. Enfin, on en a déjà parlé longuement ici, hein, et c'est pas le cœur de la BD, mais voilà, ça, la famille, elle a aussi son rôle dans cette oppression qu'est la religion et dans le poids qu'on lui donne en fait. Donc voilà, et Riyad, il va quand même s'essayer parce qu'il s'est dit tiens, je vais essayer. Mais alors son père lui a jamais demandé rien du tout, mais il s'est dit tiens, je vais essayer de le faire pour faire plaisir un petit peu à papa et puis pour sûrement se démontrer un peu des trucs aussi. Bon, il le fait un jour et puis donc c'est vraiment drôle aussi. C'est vraiment drôle et là aussi, enfin c'est des habitudes, c'est du conditionnement et donc voilà. Et autre événement, c'est que ben il va avoir un petit frère ou une petite sœur parce que ben sa maman tombe enceinte, ce qui semblait pas vraiment prévu, etc. Donc voilà, on a aussi toutes le père à Riyad a vraiment une relation étrange avec la famille de j'ai presque envie de dire théâtral, c'est-à-dire qu'on est là chacun dans nos rôles, on est le fils, on est la mère, on est et puis on se satisfait comme ça. Et sauf qu'il y a un moment donné, il va péter une pile vraiment. Pareil, très court, mais c'est waouh, c'est vraiment d'une violence et c'est inattendu quoi. Donc ça crée évidemment énormément de conflits, plus de contacts avec la famille, etc. Et puis on suit encore Riyad à l'école où il va nous décrire l'atli. Et l'atli, en fait, c'est une comment dire, ça veut dire raclé, hein. Et ça se passe en fin d'année à l'école, et c'est un simulacre en fait d'exécution publique concernant ceux qui ont été absents de l'école. Et... Alors, il n'y a pas de mise à mort, hein. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on a les enfants qui regardent et celui ou celle qui est sanctionné, et ben un peu sur une scène et le prof lui défonce la plante des pieds. C'est là aussi, c'est regarder avec son regard. À se dire, mais enfin, pourquoi cette violence-là, quoi? Donc, il y a vraiment, c'est génial. Et puis après, on va voir les relations aussi d'intérêt. Parce que, on n'oublie pas que son père est prof. Et puis, un prof, ça fait passer des examens. Et puis, tiens.
Si on est copain avec le fils du prof, ça aide.
Ouais, et puis même si on est copain avec le prof, et puis si on le balade au Liban, est-ce qu'il va peut-être nous faire. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, après, aussi, ça se passe vers la fin un peu de la BD. C'est, retour en France parce que la mère va accoucher en France. Donc Riyad, son frangin, sa mère partent en Bretagne chez la grand-mère là il est scolarisé et puis ça permet au gamin en fait, il va faire ses constatations à lui en fait entre les différences, l'absence de violence entre l'institutrice et les élèves, entre le fait que en Syrie il faut porter la blouse et pas là, et enfin tout ça, c'est vraiment, j'adore. Et comme toujours, enfin c'est c'est, ouais, c'est des instants d'une vie et qui, encore une fois, ça sert, enfin, c'est pas pour faire des globalités, des généralités, etc. Justement, ça apporte de l'individu.
C'est un parcours de vie, quoi.
C'est ça. Et c'est moi, j'adore, je suis hyper fan déjà des deux premiers et je continuerai. Donc voilà, et pour la suite, enfin.
Et il est toujours pas circoncis, Riyad Satouf, là?
Ah, je l'ai pas dit. Eh ben, si, en fait, il est circoncis et alors là. Bah justement, ça se passe en fait.
Parce que justement, on lui a reproché de décrire cette scène dans l'arabe du futur.
Ok, bah en fait, c'est quand il rentre de Bretagne, après l'accouchement, etc. Et ben, il y a toute la famille qui l'accueille à l'aéroport, et puis toute la famille. Alors que quand ils sont partis, ils étaient embrouillés avec la famille. Ouais. Donc, bon, bah le père, il s'est rapproché de sa famille, mais. Bon, il le dit lui-même, hein, Riyad, c'est que bah, la circoncision fait partie d'une des concessions que le père a fait à sa mère. Donc on va suivre la circoncision et...
Et voilà.
Et voilà, ouais.
Et voir ça, à voir dans le livre.
Ouais, à voir dans cette formidable BD dont je vous rappelle le titre, c'est L'Arabe du Futur 3, c'est toujours de Riyad Satouf, et c'est toujours aux éditions Alari. Et ben, on part pour de la musique. Voilà, c'est un virus, je vous l'avais dit. On continue cette semaine.
Je te souhaite une bonne écoute, petit abruti. S'étire et s'étire jusqu'à l'infini. Les gyrophares tournent, personne ne fait attention à moi. La vipère s'enroule autour d'un autre serpent, tandis que le vinaigre bu par la nappe s'évapore dans un bourdonnement infernal. Je ne supporte plus le temps découpé en tranches. J'absorbe tout et regarde par la fenêtre. Je vois les cages en métal qui filent sur l'autobug. Et j'entends comme un long miaulement rauque et persistant. Je continue mon périple. J'abandonne toute la place qu'il me reste dans le cerveau. Mon dos craque et commence à pousser. Les cartilages flottent et me donnent envie de détruire un animal. Je contemple tout ce qu'il me reste. Les fissures se creusent. Elles paralysent les infractuosités de cette roche métallique. Je ne ressens plus rien pour elle. Elle a tout dilapidé à la roulette chez son dentiste. Il scrute un territoire hostile.
Telle la propre définition de l'air du stu.
Je tourne et retourne le stu concept. Je tourne et retourne le stup concept. Il est là dans ma tête, telle une pieuvre mutante, enfermée dans ma baignoire. Je n'en comprends pas encore toutes les subtilités. Alors je fouille et refouille comme un sanglier amnésique. Je finis par déterrer quelques stup truffes. Elles éclatent une par une comme du pop-corn baf. Celui que j'affectionnais tant étant petit d'homme.
Veuillez opérer quelques instants, un patient va vous répondre. Ça se barre en sucette comme prévu. Veuillez opérer quelques instants. Les sirènes se multiplient. Veuillez opérer quelques instants. Shazam, dit une femme mûre. Veuillez opérer quelques instants. Je sors d'une soirée. J'attends un taxi sous la pluie. Veuillez opérer quelques instants. Un grand blond m'a réclamé du Bruce Springsteen. Veuillez opérer quelques instants. Grande blonde de la cocaïne. Veuillez opérer quelques instants. Un patient va vous répondre. Un patient va vous répondre. Un patient va vous répondre.
Thank you.
fallait couper. Ouais,
ah c'est... bah non, c'est pas propre.
C'est pas propre.
T'as fait foirer la technique.
Oh, désolé. Ouais. Elle va
bonjour les auditeurs et auditrices, ça va vous?
Oui, c'est vrai. Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie sur le 102.2 à Lyon et partout ailleurs, c'est sur internet. Et on vient de s'écouter un nouveau titre de Stupéflip. Oui, je suis complètement.
Issu de l'album
Stup Virus, hein, voilà. Et le titre c'était donc Le Trou Noir avec en featuring avec MC Salo. Voilà.
Bah ouais. Ah, tu t'en remets
bon. Ouais, c'était très bon.
On peut continuer?
Oui, on peut continuer. Allez. Toi, tu veux nous parler d'un autre film?
Oui, alors ce soir, c'est vraiment culture, hein, comme on disait. Moi, je voulais vous parler d'un film qui vient de sortir, qui s'appelle Grave. Alors Grave, bah, G-R-A-V-E, hein, comme waouh, c'est grave, voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas à comprendre que c'est le titre du film, Grave. Oui, hein. Grave. Donc voilà. Et donc du coup, c'est un film de Julia Ducournau, C'est son premier film. Elle avait fait un court-métrage avant qui avait été bien apprécié. C'est une production franco-belge. Alors, je tiens à le dire parce que c'est important. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal en fait à réunir les deniers nécessaires à faire son film. Et en fait, elle a eu un coup de pouce inattendu de deux acteurs de la scène culturelle, comme on dit quand on parle bien sur les radios un peu culturelles. Mais en fait, non. Elle a eu un coup de pouce de Julie Gayet. Actrice et réalisatrice, vous savez, c'est aussi la femme du président, tout ça, on s'en fout, mais surtout, c'est quelqu'un qui porte des projets comme ça assez régulièrement et d'une chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte. Voilà, et qui est venue mettre au panier pour qu'elle puisse avoir la fin de... Voilà, et tout ça sur le scénario. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'image. Hein. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Parce que maintenant, parlons du film. Alors, le film, comment vous décrire ça? C'est un mélange entre un truc très gore et un truc qui vous retourne la tête. Voilà. Je le conseille, une fois que ça c'est dit, c'est bien. En fait, pour faire simple, c'est un film dit d'horreur, de genre, mais assez atypique pour un film français. Très très loin aussi de ce qui se fait dans les films d'horreur classiques américains. Voilà. L'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Justine, que vous allez suivre, qui est interprétée par une actrice qui s'appelle Garance Marillier, et qui est juste bluffante et géniale. J'ai pas d'autres mots, parce que je crois que les actrices et les acteurs dans un film d'horreur ou un film de genre porte généralement le film, et elle, on peut dire que plus que de porter le film, elle le sublime, c'est-à-dire que elle est tellement à fond dans ce qu'elle fait que voilà, je sais pas comment dire, elle est de quasiment tous les plans, donc on la voit quasiment tout le temps, et elle est hyper impressionnante, quoi. Donc c'est Justine qui a 16 ans, qui fait partie d'une famille où tout le monde est végétalien. Voilà, ils sont végétariens, voire végétaliens, ils vont même plus loin que ça, ils adorent les animaux, ils estiment que les animaux ont les mêmes droits que les êtres humains, il y a toute une notion autour du vegan, comme on dit aujourd'hui, et ils sont tous vétos. La mère, le père, la sœur est en train de faire des études de véto, elle est en deuxième année, et Justine, qui est en avance sur son cursus, parce que c'est un petit génie, va rentrer en première année de véto dans la même école que sa sœur, qui est la même école que sa mère, qui est la même école que son père. Voilà, vous voyez ce truc un peu clos comme ça, qui pose bien la base de départ d'un film un peu étrange. Et ce qui va se passer, c'est que le film va traiter de plusieurs choses, de façon, je trouve, assez intéressante. Alors la première, vous allez avoir déjà tout simplement ce qu'on appelle vulgairement la crise d'adolescence, mais que je recorde ce mot-là et qui veut strictement rien dire, mais qui est plutôt le passage en fait d'une adolescence insouciante à l'adolescence avec de la sexualité. C'est-à-dire, c'est le moment où en fait on a envie de se dire, tiens, ça a l'air sympa, j'ai envie d'essayer. Et alors ça, c'est le premier aspect du film que je trouve assez bon, c'est que la réalisatrice, elle ne fait pas dans le pathos, elle ne fait pas dans le côté un peu ridicule du truc, elle fait plutôt dans une sexualité assumée, une jeune femme qui se découvre, qui découvre son corps et puis qui trouve pas ça honteux et trouve même plutôt ça cool. Voilà. Et donc c'est assez féministe comme positionnement et d'ailleurs la réalisatrice l'assume pleinement parce qu'elle disait que ça la faisait chier de filmer encore un truc oh là là, j'ai peur, allô maman, tout ça. Elle dit non, elle dit à un moment donné toutes les filles ne sont pas des pauvres choses fragiles et elle avait envie d'avoir une héroïne qui n'était pas une pauvre chauve fragile. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'allégorie va se faire là, c'est-à-dire que la sexualité va se mettre en parallèle avec son goût de la viande qui va apparaître et apparaître. Alors ça va apparaître en fait au cours d'un bizutage, parce que ça aussi c'est un deuxième aspect du film, c'est l'autorité et le rapport à l'autorité. Oui, ça peut intéresser. Elle va arriver dans cette école de veto, cette petite Justine, et sa sœur qui s'appelle Alexia va faire partie des gens qui bizutent. Et elle va faire partie des bizus. Et il y a une sorte de rapport assez étrange entre sa sœur et elle, et entre l'autorité et le fait que quand on est bizu, on doit se soumettre à tout ce qu'on nous demande de faire. Et en fait, cette végétarienne convaincue, vu qu'elle a été élevée dans cette mouvance-là, et elle est vraiment très convaincue du fait qu'il faut être végétarien, va être obligée de manger un rein de lapin cru. Ça fait partie du bizutage, c'est comme ça, ouais, c'est cool, oh, qu'est-ce qu'on se marre. Et en fait, ça va révéler chez elle quelque chose d'assez étrange, va se réveiller une espèce de goût de la viande, mais qui va aller au-delà du simple steak haché, c'est-à-dire qu'elle va sombrer dans une forme de cannibalisme. Voilà, donc c'est là la partie gore du film. Mais je vous en dis pas plus, je vous raconte pas l'histoire, ce serait un peu dommage, mais c'est très intéressant, parce que cette transformation va entraîner d'autres transformations dans sa vie et dans d'autres aspects. La relation sœur, grande sœur, petite sœur est assez étonnante et étrange entre la grande sœur qui a toujours été vue comme tarée et la petite sœur qui est le petit génie de la famille. C'est bien fait, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas cousu de fil blanc. C'est complexe, c'est poisseux, c'est étrange. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc la sœur d'ailleurs, c'est Ella Rumpf qui joue sa sœur. C'est une actrice belge que vous avez pu voir dans plusieurs séries ou téléfilms, si vous suivez les téléfilms policiers. C'est une actrice qui généralement joue souvent les junkies, parce que comme elle dit, elle a une tête où elle a l'air défoncée même quand elle a rien pris. Et c'est pas de sa faute. Mais en fait, voilà, du coup là, justement, elle est dans un rôle un peu à contre-courant sur certains aspects, donc ça c'est intéressant. Et au milieu de tout ça, il y a un homosexuel, voilà, parce que comme dirait la réalisatrice, il fallait caser un PD. C'est pour rire qu'elle dit ça, parce que là j'ai vu que des gens avaient pris ça au premier degré. En fait, elle a casé ça tout simplement que dans ce personnage a un vrai intérêt. C'est-à-dire que c'est un homosexuel assumé, mais qui a mis 20 ans à s'assumer. Donc ça aussi, c'est dans l'histoire, ça a un poids. Et il est joué par Rabat Naït Oufella, qui est un super acteur, mais vraiment que moi j'espère revoir dans plein de films. Il joue Adrien, qui est donc voilà, et qui est le colocataire de Justine. Et entre eux va se nouer une sorte de relation assez étrange aussi, qui est pas celle qui aurait dû se louer, et qui est pas celle qui aurait dû être prévue. Et puis comme dirait la réalisatrice, qui est aussi la scénariste, il y en a marre que l'homosexuel soit toujours le bon copain sur qui on vient pleurer sur l'épaule quand on est une pauvre fille fragile, triste. Et donc on n'est pas du tout dans ce cliché là et voilà, je vous laisserai découvrir dans le film cette espèce de rapport qui se met entre eux et qui est très intéressant. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est que c'est très dérangeant, hein. faut être très clair, c'est pas un film qu'il faut voir quand on vient de manger. Voilà. Okay. Si vous êtes sensible, évitez. Hein, voilà. Il paraît qu'il y a eu des évanouissements à Toronto quand il a été diffusé dans un festival. Ça, j'y crois moyen. Je pense que ça, c'est un petit peu pour faire du buzz, comme on dit autour du film. Surtout que même la réalisatrice, elle dit que c'est un peu con-con, quoi, qu'on lui ait collé cette étiquette-là. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'alors, la réalisatrice est très, très influencée par Cronenberg. Ça se sent. Elle a une façon de filmer assez proche. Par moments, elle rend un peu hommage, comme on dit, à Cronenberg, avec des plans qui ressemblent, un rythme qui ressemble à ce que fait Cronenberg dans ses films. Mais surtout, on sent qu'elle est hyper fan de cinéma coréen. Et ça fait du bien. mais parce qu'on sort justement de tout le truc du cinéma, soit américain, soit européen. Et là, en fait, c'est une européenne qui mélange des influences et ça devient super intéressant. C'est-à-dire que la réalisation, des fois, elle fait des trucs auxquels vous attendez pas. Il y a des plans, vous dites, mais pourquoi elle me filme ça? Et en fait, c'est juste parce qu'il faut vous donner 3 minutes pour respirer, parce que ce qui va se passer après, il vaut mieux que vous ayez respiré un peu avant. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est lent, c'est volontairement lent. Par moments, il y a des ralentissements de rythme. qui vous mettent en tension, parce que c'est le genre de film où on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors on est là, et puis le rythme ralentit, puis on dit, non mais vas-y. Savez, c'est un petit peu comme quand on monte sur un grand 8 et que la nacelle s'arrête, et qu'on ne sait pas à quel moment on va descendre dans le grand 8. Bah, c'est exactement cette sensation-là, c'est que là on est là, on dit, vas-y, mais balance-moi ce que tu veux me balancer. Et en fait, bah, voilà, c'est bien fait, ça dure 1h38, et c'est balèze hein, d'arriver à justement à vous faire un film qui vous reste dans la tête, et qui va vous trotter dans la tête toute la journée, voire même un peu plus, en 1h38 de temps et sans, et vraiment voilà, la musique est super bien utilisée, mais vraiment. Et puis franchement, le scénario est tordu à souhait. Même si on est toujours sur la notion, comme on disait, Thanos et je sais plus quoi là, voilà, Thanatos, je crois, c'est bon, le sexe et la mort en fait, et que c'est un truc un peu universel dont on parle dans beaucoup de pièces de théâtre, dans beaucoup de films et autres. Bah là, elle a une vision qui moi m'a plu et voilà. Et alors je voudrais juste répondre quand même à une critique qui a été faite notamment par quelques croyants, voilà, qui ont fait des trucs très, voilà, des sorties très virulentes contre ce film. Alors je rappelle qu'on n'est pas obligé d'aller au cinéma voir des films. Voilà, donc foutez la paix aux gens. Si vous voulez pas aller le voir, n'allez pas le voir, hein, faites pas chier le monde. Et puis non, c'est pas une allégorie du Christ, parce que j'ai lu ça, non. Alors là, je sais pas où c'est qu'ils ont vu ça, mais arrêtez de caser votre super-héros partout, parce que là, il y a vraiment pas ça.
Ils arrivent à le voir dans un toast, alors dans un film.
Non, mais là, j'ai été halluciné, enfin, vraiment, parce que, alors, si, moi, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que j'ai trouvé ça très drôle, c'est que oui, c'est vrai, le cannibalisme est dans la religion catholique, vu qu'on mange le corps du Christ, et qu'effectivement, peut-être qu'ils font ce parallèle-là, mais alors là, moi, ça, j'ai pas compris où histoire les caser, que c'était une offense au Christ, ou je sais pas quoi. Allez-y tranquille, ça n'a, il y a pas un pet de religieux là-dedans. C'est pas du tout le but du film. C'est plutôt un film sur vous, sur comment vous avez vécu votre adolescence, sur comment vous vivez vos névroses et sur être soi. Ouais, mais à quel prix? Voilà. Je dirais ça se résumerait bien comme ça. Voilà. Allez voir Grave, c'est vraiment bien. Donc c'est de Julia Ducournau. Et voilà.
Il est sorti quand là?
Il est sorti mercredi. Okay, je pense pas qu'il reste longtemps. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Je pense pas qu'il reste longtemps à l'affiche parce que comme tous les films classés de genre en France, eh ben, les gens vont pas les voir parce qu'ils disent, ah, c'est un film d'horreur. Mais non, on s'en fout. Vaut mieux aller voir un film psychologique où on pleure pendant 2h15. Eh ben, non, allez voir des films aussi de genre parce que c'est vachement bien et que parfois on peut parler, on peut parler de vous à travers des scènes choc, à travers une façon de faire choc. Et voilà. Et ça fait du bien d'avoir des films qui s'interrogent sur plein de trucs sans avoir l'air d'y toucher. Voilà. Donc je le redis, allez voir Grave.
Eh ben le message est passé. Et on passe à la zik?
Ouais, musique.
Allez.
Inside your heart. suffocate me, defecate me. Every icon fails to save me. Stars are falling gently in the dark. Every symbol, every token, everything inside is broken. Just like rainfall, everything comes down. When I dream of three. When gods, they dream of me. Today was the day when morality died. When I dream of three. When gods, they dream of me. How we love, how we laughed, how we cried. And forfeit are the same. Masturbate me, desecrate me. With her hands you consecrate me. We consume sensation and disdain. Every symbol, every token, everything inside is broken. Just like moonshine, we are all insane. When I dream of three. When gods, they dream of me. Today was the day when morality died. When I dream of three. When gods, they dream of me. How we laughed, how we laughed, how we cried. When I dream of three. When gods dream, they dream of me. Today was the day when morality died. When I dream of three. When gods dream, they dream of me. How we laughed, how we laughed, how we cried.
Et de retour sur les bandes continues, pas du tout, dans la causerie sur Radio Canu, mais je sais pas ce
c'est
que
difficile ce soir. Quand même ce soir.
C'est dur, c'est dur. Et oui, alors là, vous venez d'écouter quelqu'un qui fait alors un style assez particulier qu'on appelle donc la Dark Wave SM, hein. Voilà. Donc c'est Ordo Rosarius Equilibrio et c'était The Misanthropic Polygamist avec Oh God's Dreams. C'était là le sous-titre du du titre. Voilà. Et ils chantent que des trucs autour du sexe, de la, du libertinage, de l'abandon de Dieu, de voilà.
D'accord.
C'est très intéressant. Écoutez.
Ok.
On va aller au bref.
Bah ouais, on c'est y parti. Va, on est à la bourre, ouais. Voilà. Comme d'hab, tu me diras. Donc, premier rendez-vous, bah, c'est comme tous les lundis, c'est la permanence juridique d'aide aux sans-papiers qui a lieu à la Lutine. C'est toujours au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement de Lyon. Et c'est toujours de 18h30 à 20h.
Et le mardi 21 à 10h30, il y a une manifestation départementale pour la défense de l'industrie des emplois et des services publics. C'est à l'appel national de la CGT. Et c'est, oui, c'est pour la défense de l'industrie et contre la logique du gâchis. Alors la manifestation, elle est au départ du boulevard Irène Joliot-Curie à Vénissieux. C'est en face de l'usine Rexroc-Bosch. Voilà, vous savez, c'est là où on avait fait des accords pour qu'on travaille vachement plus et que là ils sont en train de la fermer et ça ira jusqu'au siège du MEDEF dans le 8e, voilà. Et donc c'est à 10h30 de, alors c'est boulevard Irène Joliot-Curie, je sais plus à quel niveau, mais c'est voilà.
Normalement ça devrait se voir.
Oui, devant l'usine Bosch, quoi.
Ouais. Voilà.
Et ben, le rendez-vous suivant, c'est le samedi 25 mars à 15h. Il y a une manifestation, alors c'est indiqué manifestation, mais sur la place des terreaux, donc je pense que c'est plutôt un rassemblement.
Je sais pas trop.
Enfin, en tout cas, ça se passe au départ à la place des terreaux. C'est pour la liberté de circulation en soutien aux réfugiés et aux migrants et migrantes. Et c'est organisé par le collectif de soutien aux réfugiés et migrants, migrantes Lyon 69. Et puis, il y a un festoche.
Oui, alors c'est le festival de cinéma ibérique et latino-américain, toujours. C'est au Zola à Villeurbanne. Vous pouvez aller sur le site lesreflets-cinéma.com. Oui, parce que c'est reflet du cinéma ibérique et latino-américain. J'ai oublié le mot reflet. Voilà, et c'est dur jusqu'au 29 mars.
Ok. Et l'autre rendez-vous, le dernier en tout cas qu'on vous donne pour ce soir, c'est la semaine prochaine. La causerie de 22h à 23h avec Georges.
Il est pas malade. C'était pour rire. Oh, non, non, il sera là, hein, et puis ce sera bien.
Bah, ça devrait en tout cas.
Oh, on a déjà dit ça la semaine dernière. Non, mais je déconne. Oh, ça va.
Oui, donc la semaine prochaine, émission astronomique où Georges nous causera du matériel que les amateurs utilisent, mais aussi que les pros utilisent. Ouais. Et s'il a le temps, peut-être aussi, c'est un peu la croisée entre les recherches, en tout cas les trouvailles des uns et.
Et celle des autres, et la validation, tout ça.
Par les pros, les amateurs, peut-être pas, on sait pas.
On sait pas, on verra.
On sait pas. C'est vraiment le mystère. Georges est un mystère d'ailleurs. On en parle ?
Non. Un petit rappel avant qu'on s'en aille. lacausericanure@gmail.com. Si vous êtes un artiste ou si vous faites des expos, si vous êtes une association, si vous êtes, si même vous portez quelque chose que vous avez envie de parler, et ben voilà, contactez-nous, on en discute et puis ben voilà, l'antenne est aussi là pour vous. C'est la chance qu'on a d'avoir une radio associative et rebelle sur Lyon. Donc autant l'utiliser à bon escient. Voilà.
C'est ça. Et on va se quitter avec
un hymne au plaisir.
Oui, tout à fait. On se quitte avec Dildo Duo de Billy the Kick et Beltan Ansel.
Ça va être chouette.
Dildo Duo. Qu'est-ce que. Enfin bon, je chercherai dans mon. Oui. Trans...
Bah, écoute bien.
D'accord, ok.
Bon, bah, allez, alors, bonne semaine
bonne
à tous.
Bonne soirée,
tous.
Bonne nuit, bisous, ciao.
Bonne soirée, ciao.
Salut.
Voici venu le temps de la prière. Avec joie, plaisir.